C'est FM Radio, bonsoir. Frédéric Moreau du Coq à l'Âne. Ce soir, nous partons pour l'année 1956. Quelques histoires et la musique. A tout de suite. À bien regarder, à survoler cette année-là, après-guerre en reconstruction, envolée économique et pleine d'illusions, on ne voit rien d'autre qu'une succession d'images classiques et convenues. Une nostalgie, un âge d'or pour ceux qui cherchent les racines. Mais quoi ? Il n'y a pas encore cet élan, cette consommation, cette confusion, cette consomption, dans la profusion qui, quoi, un an, deux ans, quatre ans peut-être, et verra la planète, pas toute, la nôtre. Le quart en haut à gauche, l'occidentale société s'enflammer, s'adorer, s'hédoniser, rock'n'roll, drogue puis sexe, un pas ou deux, et le cinéma ouvrira ses coquilles, esgourdes et écoutilles, l'arty, l'underground, le non-aligné, la nouvelle vague, le nouveau documentaire, le ciné-vérité, le western crépuscule, le polar cynisme déferleront sur nos cerveaux avides d'images nouvelles, de décalage, de background, de backstage, de backspeed, de back-to-back. Mais là, il y a quoi? Il y a Elvis, à peine sorti de son pelvis, Gene Vincent, d'avant Beatlemania, et le rock noir. Mais il est encore celui de Papa Halley et ses comètes. L'heure est à la conquête spatiale en compète. Après la vague noire du rock, ce sont des blancs, un brin conservateur, qui mettent pendant un temps la main sur la gold mine du rock'n'roll, en rue vers l'or. Deux faces et 45 tours. Des galettes comme au tir au pigeon sous la dire devenue tout désuet. Où l'on disait « poule » pour avoir le droit à un pigeon d'argile voltigeant. Parce que « poule » veut dire « tirer » en amerloque « English ». et qu'il ne s'agit pas d'appeler à la galinette faisant des ou pas. En les années 50s, le monde moderne se prépare. La guerre de Corée à peine achevée sur un autre tas de cadavres hallucinants de 3 millions de morts. Les Français ont fait la valise au Tonkin et lâchent l'Afrique coloniale par petits coups et lois cadres. Seule l'Algérie départementalisée et patrie de pieds noirs à l'avenir noirci reste française dans l'insurrection et une guerre qui se prépare et ne dit pas son nom. La nostalgie cache mal son effroi. Elle est la douleur de l'ignorance. Un attachement illusoire à un temps révolu, disparu dans les limbes du jadis. Amour du passé comme refuge à la réalité que ce passé même fut. Je ne crois pas qu'en 1956, tout le monde s'amusait, dansait au quartier latin ou rock'n'rollait dans l'allégresse et l'oubli du présent. En 1956, il y avait l'espoir du côté des vainqueurs, la survie du côté des autres. Et les vainqueurs sont toujours les mêmes, limite salauds dans leur victoire, condescendants en pitié de bon aloi. Quel que soit le point de vue, l'endroit d'où l'on regarde et la focale que l'on utilise, même du plus petit bout de la lorgnette, le vainqueur est celui qui dicte. Aux États-Unis, sous la présidence d'Ike, le général 5 étoiles, le vainqueur de l'Allemagne année zéro, l'ancien boss de l'OTAN, l'hystérie est à l'anticommunisme avec la campagne de délation et de jugement menée par le sénateur McCarthy pendant 2 années de fureur et de sueur. En 1956, Arthur Crudup chante « That's alright ».
For you, that's all right, no mama. Any way you do, but that's all right. That's all right. That's all right, now, mama. Any way you do. Well, my mama, she done told me. Papa told me too. The life you live in, son, now women be the death of you. That's all right, that's all right now, mama, any way you do, yeah, man. I love that woman, but I got to let her go. But that's all right, that's all right. That's all right now, mama, any way you do. Babe, now if you don't want me, why not tell me so? You won't be bothered with me around your house no more. But that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do.
En 1956, après 2 ans d'hystérie, c'est déjà du passé. Le sénateur psychorigide a été rangé au musée des horreurs et l'administration présidentielle a repris la main pour un second mandat. La politique est à la lutte, mais en sous-main et sur d'autres terrains. Pendant ce temps, l'Américain moyen est invité à consommer, à boursicoter et à bouger. Plus de 60 000 bornes d'autoroutes interstate sont déroulées. On aimerait bien aussi qu'il procrée, donne de bons petits anticocos et être le porte-drapeau d'un bonheur vendu sur catalogue et par correspondance. Procréer, oui, mais de façon méthodique, américain et wasp. Et qui dit protestant, dit une certaine maîtrise des naissances, dans une pensée venue de Malthus, et passant par des campagnes de stérilisation de populations jugées inaptes, voire par un eugénisme déclaré. La pilule contraceptive voit le jour en 1956 dans le laboratoire du docteur Pincus, un nom circonstanciel. Cet homme, cloneur de génie, d'une lapine en 1939, époque où la science devient volontairement prométhéenne et monstrueuse, invente donc la pilule, qui est avant tout un moyen curatif pour aider les patientes souffrant de dérèglements. En 1960, elle est enfin vendue comme contraceptif et libère les femmes d'une contrainte immense et annonce une libération sexuelle cadenassée depuis des siècles par la procréation et l'enchaînement de fêtes de la mère dans la maternité. En 56, Louise Prima, For My Baby.
Nothing's too good for my baby, for my baby, sugar baby. Nothing's too good for my baby, 'cause baby's so good and kind to me. Now when he holds me in his arms, in his big and brawny arms, my happy heart goes right up to the sky. Makes me think of pretty things, so I'd even buy the wedding rings. And if it was for him, I'd bake a pie.
'Cause nothing's too good for my baby.
For my baby.
For my baby.
For my baby.
Sugar baby.
Sugar baby.
Nothing's too good for my baby.
For my baby. 'Cause baby is so good and kind to me.
Learn to bake a pie. Nothing's too good for my baby.
For my baby.
For my baby.
For my baby.
Mmm, baby.
Mmm, baby.
And nothing's too good for my baby.
For my baby. 'Cause baby is so good and kind to me.
Hey, la 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 da da la 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 da da la 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 da 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 la 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 da oh baby.
La 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 da da.
And just for you, I'd hit you in your eye.
And just for you, I'd like to see you try.
And just for you, I'd learn to bake a pie.
Vingt ans plus tard, il y aura le punk. En 56, donc, la science, un brin rêveuse, regarde aussi vers les étoiles. Les recherches menées par scientifiques, ingénieurs et techniciens pour le compte de l'Allemagne nazie, avec la manœuvre concentrationnaire du camp de Dora dans des conditions effroyables, sont récupérées par une Amérique gourmande. L'ingénieur von Braun, passionné d'aéronautique et de fusées depuis son plus jeune âge, travaille dès les années 30 aux premiers essais de moteurs fusées à poussée verticale. Puis il mène pendant la guerre la conception du V2, dont la construction coûte la vie à plus de 20 000 déportés, bien plus que le nombre de victimes que ces missiles explosifs font en Angleterre et en Europe occidentale à la fin de la guerre. V2 donc, missile vitaminé, utilisé à la fin du conflit par un pouvoir agonisant comme dernier atout. Von Braun est exfiltré avec son équipe par les Américains et participe ensuite au développement des missiles pour l'armée de terre US, à une époque où la bombe est désormais champignonnesque. Parallèlement, il mène campagne pour la conquête spatiale et la mise en orbite d'un premier satellite. Mais le président Eisenhower freine cette partie du programme pendant que l'Union soviétique drive à toute blinde vers l'espace et en 1957, le premier bip-bip descend du ciel lancé non du paradis, mais de Spoutnik. En 56, Ike Turner, le futur mari un rien vache de la grande Tina, chante Rocket 88.
Jalopies, you heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! My rocket and don't be late, baby, we're pulling out about 8:30. Going round the corner and get a bill. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along.
En 1956, la conscience africaine se réveille. Le 1er janvier, le Soudan obtient son indépendance. Les élites noires francophones poussent à la loi cadre de fer pour une grande autonomie des pays de l'ANF, qui verra leur indépendance 4 ans plus tard. En Afrique portugaise naissent le Parti pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, créé par Amilcar Cabral, et le MPLA en Angola. Un fort mouvement de résistance anti-française se développe au Cameroun. Les élites congolaises obtiennent la possibilité de parti noir au Congo belge. En mars, le Maroc obtient son indépendance et récupère, quelques semaines plus tard, la partie de son territoire encore contrôlée par l'Espagne. Et le Maroc est suivi de peu par la Tunisie, qui accède à son tour à l'indépendance avec Bourguiba comme premier ministre, très vite auto-transformé en président d'une nouvelle république. En Algérie, la pression des pieds noirs sur le gouvernement Mollet est vive, d'où le rappel de 50 000 réservistes et la présence sur place de 380 000 soldats. Les premières exécutions de membres du FLN ont lieu à Alger, où la guillotine va beaucoup trancher. L'état-major d'Alger frappe un grand coup, jugé illégal, en détournant l'avion qui transporte 5 des 9 dirigeants historiques du FLN de Rabat à Tunis. S'ensuit un massacre de colons à Meknès au Maroc et des attentats redoublés en Algérie. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Un mouvement antiterroriste passe à l'action terroriste, chercher l'erreur, en poussant aux ratonnades et à de nombreux attentats contre la population musulmane dans la Casbah d'Alger. Et enfin, la fin d'année voit se dérouler une guerre fratricide entre FLN et MNA pour la mainmise sur le mouvement indépendantiste en Algérie et en métropole, qui découle sur une vaste campagne d'élimination de part et d'autre. Et le FLN en sort vainqueur. La révolution a toujours sa part de terreur. Magalie Noël, la femme toujours joyeuse du beau Boris, aime l'amour vache. Vas-y Johnny.
Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Je me fais mon mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal.
Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, Johnny, 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 pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, 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 j'aime pas l'amour qui fait bing.
Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal.
Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu de l'escalier en laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Non mais fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Oh Johnny.
Oh la vache. Oh j'en ai marre alors.
Staline, le petit père, l'ogre du Kremlin, meurt en 53. S'en suivent deux années de lutte au sein des hautes instances de l'appareil soviétique. Khrouchtchev, qui s'appuie sur le parti, qui a été vidé de son importance par le pouvoir unique de Staline, pendant plusieurs décennies, réussit à évincer Beria, qui lui joue de son influence sur les services de sécurité. Puis il écarte ses alliés d'hier, Malenkov et Molotov, et enfin, un peu plus tard, le maréchal Yukov. De tous les staliniens survivants, après des décennies de purges, Mr. K reste le seul et dernier à force de fines tactiques, en partie dû à son esprit de paysan roué. Au 20e congrès du parti, en 56, il dénonce l'ère stalinienne et les crimes auxquels il a lui-même participé. Le cynisme est l'arme favorite en terre de socialisme bureaucratique. C'est vite une traînée de poudre qui se répand au travers des républiques unifiées et dans les satellites d'Europe centrale. En juin, des émeutes éclatent à Poznan. Les Polonais réclament le départ des troupes russes, de meilleurs salaires et des élections libres. Khrouchtchev a ouvert la fenêtre pour aérer et faire disparaître les odeurs du cadavre encore chaud de Joseph Djougatchvili, mais il ne faut pas attiger trop. Répression sur la Pologne, une vieille habitude des Russes. En juillet, la Hongrie remue à son tour. Alors qu'en Pologne, le pouvoir est à nouveau chancelant, les Hongrois lancent l'insurrection de Budapest. Les combats font rage. Imre Nagy redevient Premier ministre du fait d'une certaine vacance du pouvoir. Il suit les mouvements, se prononce pour le multipartisme, pour des élections libres et des réformes économiques. Également pour le départ des troupes soviétiques et un cessez-le-feu. En comptant sur le soutien occidental, il déclare le retrait du pays du pacte de Varsovie. C'en est trop. Deux semaines plus tard, c'est l'écrasement dans le sang. Nagy finit au bout d'une corde et tout rentre dans l'ordre. Asha Osl chante Inamina Dika en 1956. Thank you.
डोलो पे सुलाए जो फूलों से उठाए तो काटो में रुलाए कलेजे को थाम पुकारे का नाम तू ही है तू ही तो है वो इना
मीना डीका
डायडमनी का
डायडमनी का
माका नागा नागा
माका नागा नागा
चीका बिकारी
का इना मीना डीका डीका डायडमनी का माका नागा माका
En 1956, ce mouvement des pays non alignés est lancé avec à sa tête Tito, Nasser et Nehru l'Indien. En pleine déstalinisation, Khrouchtchev se rapproche de la Yougoslavie de Tito et affirme l'existence de voies diverses vers le socialisme. Nasser l'Égyptien, devenu président de la République, se tourne vers l'Occident pour financer la construction du barrage d'Assouan. La France et la Grande-Bretagne, pro-Israël, refusent. Afin de faire pression sur le gouvernement égyptien, les États-Unis, eux, déclarent qu'ils ne participeront pas au financement. En riposte, Nasser annonce la nationalisation de la compagnie du canal de Suez. Les revenus tirés de l'exploitation du canal serviront à financer la construction du barrage. Il dénonce la présence britannique au Moyen-Orient et soutient les mouvements nationalistes d'Algérie. 70% des importations britanniques et 50% des françaises transitent par le canal. Et le capital de la compagnie du canal se partage entre le trésor britannique et 170 000 petits porteurs français. Gros problème économique. L'Union soviétique reconnaît la nationalisation du canal et Dario Moreno, lui, veut danser.
La, 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 la.
Quand elle danse, nulle autre fille n'a sa cadence. Quelle présence, quelle prestance, il y a vraiment quoi tomber en transe. Jouant des hanches, elle se penche, puis se relève comme une branche. C'est la plus belle des jouvencelles, tous les garçons du bal ne voient qu'elle. Oui, mambo, merengue, samba, c'est avec grâce qu'elle danse tout ça. Mais si on lui fait quelques mots d'esprit tout bas, elle répond comment je ne comprends pas. Ce qu'il lui faut, c'est un pas de mambo. Ce qui lui va, c'est un petit cha-cha-cha. Ce qui la tient, c'est le rythme cubain. Ce qu'il adopte, c'est du jazz très bebop. Quand elle danse, plus rien pour elle n'a d'importance. Ses yeux chavirent, ses bras se tirent, sa jupe vole et c'est du délire. Son cœur palpite, il va plus vite, son corps frissonne et sa voix s'irrite. Elle s'enflamme, elle s'exclame, aïe 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 aïe, prête à rendre l'âme. Oui, depuis que toutes ces danses sont arrivées chez nous, c'est très curieux. Des milliers de filles comme elle se dépensent, le romantisme n'est plus dans leur jeu. Ce qu'il leur faut, c'est un pas de mambo. Ce qui leur va, c'est un petit tcha-tcha-tcha. Ce qui les tient, c'est le rythme cubain. Ce qui les dope, c'est du jazz très vivant.
Conférence réunissant 22 pays se réunit à Londres. L'Égypte s'y fait représenter par l'URSS et l'Inde. L'Américain John Dulles propose la création d'une organisation internationale chargée du contrôle et de la gestion du canal de Suez, plan qui est rejeté par l'Égypte. Un accord est conclu entre la France, la Grande-Bretagne et Israël pour une opération destinée à envahir l'Égypte. Des troupes israéliennes pénètrent sur les territoires égyptiens et avancent dans le Sinaï. La France et la Grande-Bretagne adressent alors un ultimatum aux deux pays, Israël et Égypte. Les États-Unis demandent au Conseil de sécurité de condamner l'attaque israélienne et d'exiger un cessez-le-feu immédiat. La France et la Grande-Bretagne opposent leur veto. Le monde se retient de respirer. L'Égypte rejette l'ultimatum. Début des bombardements franco-britanniques, des troupes sont parachutées sur Passaïd et marchent vers le canal. Gaza est prise par les forces israéliennes. Les États-Unis votent avec l'URSS, du presque jamais vu, une résolution de l'ONU contre la France et la Grande-Bretagne qui viennent de s'engager dans un conflit avec la République égyptienne, exigeant l'arrêt immédiat des combats et le retour à la position ante. Fermez le banc. Le président Eisenhower émet une doctrine qui stipule que les États-Unis s'opposeront à toute agression soviétique dans la région et fourniront une aide économique aux pays qui en feront la demande. Les pays arabes, à l'exception de l'Égypte et de la Syrie, se rallient à la doctrine Eisenhower, figeant pour des décennies la politique américaine dans la région et la mise en minorité des diplomaties anglaises et françaises au Moyen-Orient. Avant la belle égyptienne aux jambes longues qui fera un tabac l'année suivante, Lee Boniche, le chantre algérois de la musique judéo-arabe, chante Bambino.
عينك بكى وتظهر حزين مشغول بال جافك النوم دات حياتك والأمال وحدك ما حطار تمشي في الشارع وجوال وكل نهار تنظر الشباك قحلة الانظار وانت في حبها مقهور
بامبينو
وقربها متاملو
بامبينو
لكن الحب يا مغرور
بامبينو
صعيب وانت ما تقدر له يبكى وتظهر حليه مشغول البال جافك النوم دات حياتك بالأمان وحدك ما حطار تمشي في الشارع وجوال وكل نار تنظر الشباك كحالة الانظار وانت في حبها مقهور
بامبينو
وقربها متاملو
بامبينو
لكن الحب يا مغرور
بامبينو
صعيب وانت ما تقدر له اضحك واللعب بالماندولينو وسلي بامبينو الحنك تعجبني احنينا وتطربني وغني غني بصوت حنين وسلي بامبينو اليوم راك مهني على الماندولينة تغني انت بشعرك مثل الذهب
بامبينو بامبينو
روحي يا صبي ما زلت صغير
بامبينو بامبينو
مع الصبيان مشيت تلعب
بامبينو بامبينو
الحب اللي هو كبير لكن الحب يا مغرور يا مغرور صعيب وانت ما تقدر له
En Chine, depuis l'avènement du PC en 1949, le pouvoir balance entre les utopistes de gauche à la tête du parti et de l'appareil. Plus pragmatiques sont ceux qui tiennent l'administration et l'État. La politique du régime est le fruit d'un difficile équilibre entre une direction idéologique ultra-gauchiste, radicale, qui souhaiterait que le parti se substitue à l'État et aux administrations dans l'application de ses directives, et de l'autre côté, une direction bureaucratique qui souhaiterait que l'État administratif et technique domine le parti. En 55, Mao lance un mouvement de collectivisation, le premier bond en avant. Pour ce faire, il s'appuie sur les cadres provinciaux du parti contre le comité central, par le développement des coopératives afin, selon lui, que l'agriculture contribue à l'industrialisation du pays par la hausse de ses rendements. La Chine, qui fut la première nation au monde au XIXe siècle, est dans les années 50 un pays arriéré et sous-développé. À la fin de 1955, les foyers paysans ont été intégrés à la nouvelle organisation par le biais d'une forte mobilisation et de moyens de coercition. La socialisation de l'économie urbaine est parachevée. Les artisans sont regroupés en coopératives et les entreprises industrielles mises sous tutelle de l'État. La bourgeoisie industrielle urbaine est totalement annihilée. En 56, James Brown, le grand chanteur, le grand danseur, sort de l'ombre avec Please, Please, Please.
Please, 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 please.
Surtout pour l'agriculture, d'autant qu'en 56, froid et intempéries sévissent sur le pays. Ce sont disettes, voire famines, dans certains secteurs. L'incrédibilité du régime est atteinte et va justifier un renversement politique total. Une nouvelle orientation, droitière, est prise dès le mois d'avril. Pour rallier la population, le parti décide de lever un peu le poids du contrôle politique. Ce sont des adoucissements, des conditions d'emprisonnement, quelques libérations au compte-gouttes, un timide dégel dans les milieux artistiques tenus jusqu'alors d'une main de fer, etc. Davantage de liberté est accordée aux écrivains, aux artistes et aux chercheurs. Mao, dans un discours, le 2 mai, lance « Que 100 fleurs s'épanouissent, que 100 écoles rivalisent ». Lors du 8e congrès du Parti communiste chinois, en septembre 1956, il est contesté pour ses dérives politiques et ses échecs économiques. Il doit reprendre l'initiative et va de nouveau forcer la main des dirigeants du parti. Il veut inciter la population à critiquer le parti afin que celui-ci corrige ses défauts. Un vrai jeu de billard à trois bandes. Le mot d'ordre des 100 fleurs, qui jusque-là n'avait constitué qu'une campagne classique de libéralisation, devient du coup un appel à la critique. C'est d'abord timide, puis vite un torrent de plaintes s'abat sur le pouvoir venu de toute la société et principalement des couches intellectuelles. Devant l'ampleur du mécontentement et face à une situation devenue incontrôlable, le pouvoir fait à nouveau volte-face. C'est la répression, dure, intransigeante, impitoyable. La campagne des sans-fleurs marque le divorce définitif entre le pouvoir et la nouvelle société, la fin du consensus social qui avait régné jusqu'alors. Pour la première fois, la confrontation entre gouvernants et gouvernés, entre le parti et le peuple, est envisageable. À la même époque, Betty Carter et une pleine lune dans le Vermont pour tous ceux qui aiment se promener la nuit aux étoiles. À tout de suite.
Pennies in a stream, falling leaves of sycamore, moonlight in Vermont. I see snow light in the mud. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each people who meet in this romantic setting are so hypnotized by a lovely evening. Summer breeze warbling a meadow love, moonlight in Vermont, you and I and moonlight in Vermont. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each people who meet in this romantic setting are so hypnotized by a lovely evening. Summer breeze warbling of a meadow lark, moonlight in Vermont, you and I and moonlight in Vermont.
Fidel Castro et 80 camarades dont son frère Raoul et Ernesto Guevara débarquent à Cuba, venus sur un bateau de plaisance, le Granma, depuis la côte orientale du Mexique. Castro avait organisé contre le dictateur Batista l'attaque de la caserne de Moncada le 26 juillet 53, trois ans plus tôt. Attaque où périrent plus de 80 insurgés. Condamné puis libéré lors d'une vague d'amnistie en mai 55, il s'exile avec son frère Raoul au Mexique, où il rencontre le Che. Puis il part aux États-Unis pour collecter des dollars. Il fonde le mouvement du 26 juillet. Et le 2 décembre 56, Castro et ses hommes débarquent donc sur la côte cubaine. L'armée de Batista les attend. Après quelques jours de combat, ils ne sont plus que 16 survivants. Ils se réfugient alors dans la montagne d'où ils mènent la guérilla. Bientôt rejoint par des centaines de Cubains, les Barbudos prennent le pouvoir 2 ans plus tard, forçant Batista à s'enfuir, lâché qu'il est par l'administration US, gêné à ce moment-là par ses accointances avec la mafia. Cuba est libre. Et en 56, nous avons ceci.
If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care for you?
If I didn't care, honey child, more than words can say. If I didn't care, would I feel this way? Darling, if this isn't love, then why do I thrill so much? And what is it that makes my head go round and round while my heart just stands still so much?
If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care for you?
En 56, sort le très fordien La prisonnière du désert, dans lequel le cow-boy conservateur John Wayne tient le rôle principal et ambivalent d'Ethan Edwards, qui part après le massacre de son frère et de son épouse, par des Comanches, à la recherche de ses 2 nièces, la seule famille qui lui reste, et dit qu'il est dans sa quête par son neveu adoptif. Des 2 jeunes filles, ils en retrouvent rapidement une, qui est morte. S'ensuit une longue traque sur les traces de la seconde devenue l'épouse d'un chef indien. Ethan est le prototype de l'homme solitaire, hors la loi depuis qu'il a combattu du côté confédéré, sans foyer ni droit, mais qui, une fois sa famille attaquée, ne vit plus que pour la vengeance, et laisse de côté l'aventure prolifique personnelle pour se concentrer sur sa quête stérile. Défiant toute autorité et toute morale, il n'est gouverné que par ce qu'il considère comme le bien à ses yeux, allant jusqu'à lever son arme contre sa nièce, devenue la femme d'un indien, et de ce fait, sujet d'aversion pour lui. Il finit par la sauver et la ramener à la civilisation, évidemment, avant de disparaître seul et de retourner au désert. Tout est fort dans ce film qui caresse encore l'Américain dans le sens de son histoire, civilisatrice, juste, droite et chrétienne. Le pasteur est aussi garant de la loi des hommes en tant que représentant de l'ordre. Les amoureux s'attendent des années durant avant de se marier, chastes et vierges. Les fermiers colons sont solidaires entre eux malgré leur pauvreté. Il faudra encore quelques années et l'avènement d'une société ébranlée par la réalité de l'American Way of Life, la guerre du Vietnam, les drogues et l'avènement d'une génération nouvelle pour que le western se retourne et dénonce à son tour cette image fausse de l'homme de l'Ouest, juste malgré les conditions de vie dures et morales malgré lui-même. En 56, Elvis chante « Good Rocking Tonight ».
Well, I heard the news, that's good to rockin' tonight. Well, I heard the news, that's good to rockin' tonight. I'm gonna hold my baby as tight as I can. Tonight she'll know I'm a mighty, mighty man. I heard the news, that's good to rockin' tonight. I say, oh, meet me in a hurry behind the bar. Don't you be afraid that I'll do you no harm. I want you to bring along my rocking shoes, cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news, there's good to rocking tonight.
Le grand et mal connu Don Tigel, qui en 1960 fait jouer Elvis Presley dans un western où l'homme blanc soudain prend la défense de l'Indien. Donc, en 56, Don Tigel sort Invasion of the Body Snatchers, première adaptation du roman éponyme. Film hautement paranoïaque dans lequel des extraterrestres envahissent petit à petit, et nuitamment, les corps des habitants d'une ville californienne bon enfant. Sans espoir aucun, ce film est l'allégorie d'un monde dans lequel votre plus proche, voisin ou familier, peut du jour au lendemain devenir votre ennemi. Sans état d'âme aucun, sans sensibilité aucune, et servir en sous-main ou caché des intérêts extérieurs pour une communauté de pensée en conflit total avec la vôtre. L'ennemi intérieur à une époque où la menace nucléaire est extérieure, la guerre froide et l'anticommunisme galopant, plonge chaque famille américaine dans une peur de la fin de son monde et fait les choux gras des vendeurs d'abris en tout genre. Attention, la fin du monde n'est plus très loin. Je vous laisse avec le son cubain du grand orchestre de Tito Puente et ses timbales. Bonsoir.